Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous invite à faire une première lecture. Et celle-ci se situe dans le livre de l'Exode. Exode, chapitre 35, et au verset 30. Et voilà ce que nous partageons, ce que nous avons devant les yeux, et ce qui sera, eh bien, une introduction à notre méditation que nous allons engager d'ici quelques minutes. Exode, chapitre 35, verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable, Dieu a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de gravir des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholab, fils d'Ahimsac, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en purpre, en croix moisie, et le fin lin pour faire toute espèce de travaux d'invention. » Chapitre 36, verset 2. Moïse appela Betsaléel, Oholiab, et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel a mis de l'intelligence, et il est ajouté ceci, « tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter, tous ceux dont le cœur était disposé à exécuter, eh bien, ce que Dieu avait mis devant eux. » Tout d'abord, je voudrais commencer, c'est le premier message de l'année, mais je voudrais commencer par quelque chose, une petite introduction qui rentre dans le cadre de notre méditation. Moi, je voudrais rendre hommage et marquer ma reconnaissance. Après 14 ans de service au milieu de vous, à tous les frères et les sœurs, certains sont plus là, d'autres ont disparu, d'autres sont dans la gloire de Dieu, et tous les frères et les sœurs qui, quelque part, eh bien, se sont investis sans compter et dans la durée pour servir dans l'œuvre de Dieu, de Saint-Nazaire et de Redon. Je le dis parce qu'il va y avoir une suite dans notre message. C'est parce que ce qui s'est fait, il s'est fait quand même quelque chose, non ? Me semble-t-il. Enfin, moi, je pense que je n'ai pas perdu mon temps. Mais une chose qui est certaine, c'est que tout ce qui a pu se faire, contribution des uns et des autres, en parlant ou dans le silence, dans la fidélité des offrandes, au travers des talents et des dons naturels, au travers des talents et des dons surnaturels, au travers de certaines aptitudes, comme nous le voyons dans ces personnages de l'Ancienne Alliance, où Dieu a mis, eh bien, son esprit d'intelligence, de sagesse, de savoir-faire, de connaissance, d'application, etc., etc. Et puis, je précise, tous ceux qui ont pris à cœur, parce qu'on peut faire les choses, finalement, pour être vu des autres. On peut faire les choses parce que, bon, on se dit, voilà, c'est comme ça, et puis bon, je peux toujours donner la main, etc., etc. Non, mais qu'ils l'ont fait non pas pour le pasteur, mais qu'ils l'ont fait pour le Seigneur. Ah oui, il y a une grande différence. Parce que nous ne sommes pas des fonctionnaires, mes frères et sœurs, les uns et les autres, et encore moins le pasteur. Je fonctionne, mais sans être un fonctionnaire. J'ai pas toujours bien fonctionné, ça c'est sûr. Hein? Mais bon, le Seigneur m'a aidé. Mais toujours est-il que je voudrais exprimer ma gratitude. Parce que l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui, pour la bonne raison que c'est parce que vous êtes là. Tout simplement parce que vous êtes là. L'Église est vivante parce que c'est sa composante, ou on pourrait dire parce que ses membres sont vivants. Et donc actifs. Un vivant, c'est quelqu'un qui bouge. C'est quelqu'un qui est actif. C'est quelqu'un qui prend part. C'est quelqu'un qui collabore. C'est quelqu'un qui contribue à maintenir ce qui déjà fonctionne. C'est aider. C'est assister. C'est administrer. C'est gérer. Dans le but de faire. On n'est pas sauvé par le faire, hein. On n'est pas sauvé parce que ce que l'on fait. C'est ce que je veux dire plutôt. On est sauvé par la foi. Mais ce qui a permis aux églises, au corps de Christ, à l'Église, d'avancer, d'aboutir tout simplement, de faire aboutir une cause. Et la cause principale, c'est que l'Église soit, dans cette région, le témoignage d'hommes, de femmes qui adorent Dieu, qui le prient et qui évangélisent. Voilà. Alors, par delà, il y a bien sûr d'autres choses. Et croyez bien que toutes ces fonctions, par-delà les ministères d'ondes dont nous allons parler d'ici quelques instants, mais parmi toutes ces fonctions, ce n'est pas péjoratif. C'est même une valeur. C'est quelque chose dont il ne faut pas déprécier la valeur. Nettoyez cette salle pour que vous la trouviez propre à chaque fois que nous nous rencontrons. Ben moi, je dis merci Seigneur d'avoir donné des frères et des sœurs qui véritablement ont à cœur de faire ce travail. Merci Seigneur. Ceux qui font peut-être des travaux que vous ne voyez pas parce que vous rentrez, vous consommez. Excusez-moi, je retire le mot. Ouais. Non, mais c'est la société dans laquelle on est. Hein. Vous êtes bien, vous avez la chaleur, vous avez la lumière, etc., etc. Tout se fait, on éveille. Hein, voilà, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de fuite d'eau. Enfin, il y en a eu, mais bon, on a fait ce qu'il fallait pour qu'il n'y en ait plus. Mais toujours est-il que tout cela, vous rentrez et on apprécie. On apprécie parce qu'on se dit, ben voilà, ça fonctionne malgré tout. Mais c'est tout ce petit travail invisible qui est important. Et vous l'avez fait pour le Seigneur. Bien sûr, tout le monde en profite, les frères sont contents, hein, les frères et les sœurs. Alors, tout ça, ça naturellement, eh bien, ça nous donne une idée d'introduction de notre texte maintenant. On va lire maintenant dans Actes chapitre 6. Et je voudrais vous dire des choses qui sont importantes pour l'avenir. Pour l'avenir, mes frères et sœurs. Actes 6, chapitre 1er. Chapitre 6 et verset 1er. Alors, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hénélistes, c'est-à-dire c'était les chrétiens qui parlaient en langue grecque. Voilà, c'était les convertis ou les juifs qui s'étaient convertis, les juifs messianiques, mais de langue grecque. Comme c'était la langue de l'époque, comme l'anglais aujourd'hui. Murmurèrent contre les Hébreux. Les Hébreux, c'est ceux qui habitaient finalement en Israël, les chrétiens hébreux. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous les chargions, ou nous les chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée, à toute l'Église. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parnémas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. C'est pas fini. la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs, de prêtres, obéissaient à la foi. Voilà quelque chose de pratique. C'est une organisation spontanée par nécessité des besoins. On peut dire cela. Chapitre 6 du livre des Actes, il n'y a pas si longtemps que le Saint-Esprit a bouleversé le monde, et particulièrement ces hommes qui étaient les 120 dans la chambre haute. C'était tout frais tout ça, naturellement. Et nous voulons voir l'organisation de la première église chrétienne, l'église de Jérusalem. C'est intéressant de s'y pencher quelques moments parce que je pense que c'était un temps très ancien. Aujourd'hui, nous vivons dans la modernité de notre monde, c'est ce que nous connaissons. Mais néanmoins, les principes restent les mêmes. Ça ne change pas. Et quand ça ne change pas, c'est Dieu est souverain, Christ chef de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui finalement est conduit et dirige, hein, faut pas l'oublier, et puis il y a toujours des hommes, et ça tant qu'il y en aura, je pense qu'on peut se réjouir, des hommes qui prennent à cœur. Parce que c'est ça la question, le Saint-Esprit pourrait faire 1000 fois plus, mais bien sûr, on pourrait voir des choses encore plus grandes. Mais faut-il le prendre à cœur? Parce que Dieu nous a fait libres. Il nous a donné la grâce de la liberté, du libre arbitre. C'est nous qui choisissons. Alors on connaît la doctrine, on connaît la théorie, on connaît la théologie, baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, la puissance de Dieu, etc., etc. Mais il y a un problème, c'est que ça ne passe pas, c'est pas que ça descend pas du ciel, c'est que ça n'arrive pas jusqu'à la terre. Enfin, en tous les cas, ça peut rester lettre morte. C'est pour ça qu'on voit tant de dénominations dites chrétiennes qui ne sont que des dominations pseudo-chrétiennes où il n'y a pas grand-chose que la mort. Que peu de choses, en tous les cas. Et on peut comprendre que le monde n'a pas forcément envie de suivre ce genre de choses, sinon entretenir l'âme dans la religiosité. Bon, organisation de la première église chrétienne. Il y a un besoin. Ce besoin nous est montré, c'est que parmi les premiers chrétiens, il y avait des femmes qui étaient veuves, donc sans soutien naturel. Et qu'est-ce qu'on en faisait? Parce que s'il y avait des veuves, il y avait des enfants aussi. Et attendez, peut-être un petit peu plus que de nos jours, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait un souffle de l'esprit extraordinaire, il y avait des choses à s'occuper, des choses qui étaient enthousiasmantes. Faire du social? Oh, bon. Donner à manger, mais il faut y revenir parce qu'on mange tous les jours. Et elles mangeaient tous les jours, les pauvres femmes, c'est normal. Mais Jésus avait quand même mis un coin dans le cœur des hommes pour dire, mais attendez, hein, vous me servez, mais faut le faire avec amour. Parce que si vous parlez bien, si vous prêchez bien, si vous guérissez les malades, si vous faites des choses extraordinaires, vous avez le don des miracles, le don de la foi, la prophétie, etc., etc., et qu'il manque à l'intérieur de vous-même, au fond de votre cœur, ce que je vous ai dit, aimez-vous les uns les autres, c'est-à-dire mettez en pratique ce que vous savez, alors à ce moment-là, ça sert pas grand-chose. Ça sert pas grand-chose. Parce que c'est l'amour qui motive tout. Hein. L'amour du Seigneur et puis l'amour aussi pour son œuvre. Ils avaient à cœur, hein, ces hommes de l'Ancien Testament, prenaient à cœur de faire ce que le Seigneur avait dit parce qu'ils étaient là, motivés tout simplement. Il y a un besoin, mais il y a une dissension. C'est-à-dire qu'il y a le besoin d'un côté, mais il y a des gens qui sont pas contents. Pas content parce que finalement, eh bien, il y a des frustrations. Une partie de la population, et ces pauvres veuves en faisaient partie, dans l'église primitive, vous voyez que les problèmes ne sont pas d'aujourd'hui. Hein. Première église qui apparaît, il y a déjà encore des difficultés, des problèmes. Alors, rassurez-vous, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que, eh bien, les gens, là, les chrétiens messianiques d'origine, enfin de langage grec, bah, se disaient, mais zut alors, il y en a pour les Hébreux. Leurs veuves, elles sont servies, etc., etc. C'est un petit peu le débat aujourd'hui, les émigrés, vous savez, tous ces gens qui sont là et qui, voilà. Alors, il y a eu ce débat, hein, il nous est dit, le nombre des disciples augmentant. Ben, c'est bien quand l'église augmente, hein. Mais faut-il qu'elle augmente aussi en qualité? Parce que s'il y a que la quantité, ça va pas loin. Hein. Alors, ils murmurèrent, et ils ont fait passer des messages, parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Voilà, il y en avait une part peut-être plus complète pour ceux qui étaient d'origine israélite, et puis les autres, ben voilà, c'était autre chose. Alors, il faut une remise en ordre dans tout ça. Vous savez, les solutions, elles se trouvent quand on est face à des problèmes. Ne cherchons pas à faire des problèmes, ils viennent tout seuls. Mais il a fallu réfléchir à tout ça, il y a une remise en ordre et un objectif. L'objectif pour les 12, Jésus était plus au milieu d'eux, il était parti. Mais les 12 qui étaient là, enfin, en tous les cas, les 11, enfin bon, ils vont se répartir, là, ils vont se dénombrer tout à nouveau. Donc, l'objectif, le but, c'est l'harmonie et le bon témoignage de la foi. Une église qui commence, une église qui est déjà en place, c'est qu'elle ne perde pas de vue que quelque part, elle est le chandelier, elle est le flambeau, elle est le sel de la terre, elle est la lumière du monde. Et ce n'est pas fini, il y a énormément de comparaisons que Jésus nous donne, mais en tous les cas, l'harmonie, c'est l'unité qui nous met les uns avec les autres. L'harmonie, l'unité, la paix entre nous, parce que là, il y avait un petit peu une contestation, il murmurait, et puis également le bon témoignage de la foi. Ah, nous reconnaissons que ces hommes, c'est ces femmes qui vont dans telle ou telle communauté, eh bien, ce sont des gens qui s'aiment les uns les autres, et ce sont des gens qui servent le Seigneur, ce sont des gens qui ont bouleversé le monde. Ben, il faut qu'on puisse le dire, et non pas de dire les gens du monde, parce que bon, il y a beaucoup de monde qui sont quand même encore capables de dire, ben voilà, ils ont un comportement de secte, ils ont un comportement de renfermement sur eux, ils ont un comportement qui, quelque part, ils nous font la morale, et puis ben, il ferait mieux de la mettre en pratique, Parce qu'on a dit ça des églises, Et à juste titre, c'est une honte. Alors, on a ça devant nous. Et voilà qu'il va faire, il va y avoir l'apparition d'hommes qui existaient déjà dans l'Ancien Testament, mais qui vont véritablement avoir une part importante dans la vie de l'église naissante, l'église chrétienne naissante. On les appelle les diacres. Tout à l'heure, j'ai parlé des choses, des affaires de l'église qui font le fonctionnement de l'église où on se sent bien, on se pose pas trop la question qui c'est qui l'a fait, mais on sait très bien qu'il faut que ça se fasse. Les petites mains, vous savez, dans la haute couture, on appelle ça les petites mains, vous savez, celles, les dentelières, celles qui font, on n'en voit jamais, c'est pas elles qui font les défilés, Mais elles font le défilé quand même. C'est discret. Eh bien, dans l'église, c'est la même chose. Et moi, je voudrais rendre hommage aussi à tous ceux qui font des choses, mais qui sont pas peut-être mis en avant, mais qui font les choses discrètement. Et c'est bien. Mais toujours est-il qu'ils font que, ben, l'église, elle fonctionne. Eh oui, ça fonctionne. Il faut le dire. L'apparition des diacres. Vous savez que vous avez une place, mesdames. Vous pouvez être comme Dorcas et Phoebé, diaconesse. Vous vous rendez compte? C'est bien, ça. Là, au moment où on parle du ministère des femmes, eh ben, entre autres, bien sûr. Et puis, ça va beaucoup plus loin que ça aussi. Donc, les diacres, c'est un ministère de soutien. Alors, je vais faire la différence pour que vous compreniez bien, parce qu'il y a plusieurs, et encore une fois de plus, il n'y a pas d'échelle de valeur. Le pasteur n'est pas plus grand que celui ou celle qui passe le coup de balai dans l'église, excusez-moi. Enfin, moi, c'est ma conception. Maintenant, il y en a peut-être qui pensent autrement, mais ça, c'est leur affaire. Moi, ça me regarde pas. Mais toujours est-il que il n'y a pas d'échelle de valeur dans ce domaine. Ministère de soutien. En grec, diakonos. C'est-à-dire exerçant une fonction, entre guillemets, auxiliaire dans l'église. Mais qui fait que cette petite pierre, ou ce travail, va permettre l'unité, la paix, le bien-être, le bon témoignage, l'harmonie d'être le sel et d'être la lumière. Eh oui, ça va jusque-là, faut-il le dire. Il y a un distinguo à faire entre les ministères de soutien tels que les diacres ou diaconesses avec le ministère don. Alors, je vais expliquer ce que c'est parce que nous avons des frères et des sœurs qui sont nouvellement au milieu de nous et peut-être même des chrétiens qui n'ont peut-être jamais fait la différence, mais il faut quand même le signaler. Et les ministères dons, on va les lire ensemble, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 28 à 31. Alors, chapitre 12, versets 28 à 31 et nous allons découvrir alors, Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres. Les apôtres, c'est un missionnaire, c'est un pionnier, c'est un ambassadeur qui prêche l'Évangile, qui construit, qui bâtit, qui implante une Église là où il n'y en a pas, même dans des pays non chrétiens. Bah, les missionnaires, nos missionnaires. Deuxièmement, les prophètes. Ne pas confondre avec le prophète de l'Ancien Testament. Ça n'a rien à voir dans le Nouveau Testament. Et celui qui prophétise dans l'Église comme ce matin, c'est pas forcément un ministère de prophète don. D'accord? Troisièmement, les docteurs. Docteur, il vient pas avec son stéthoscope. Docte, celui qui connaît, celui qui sait. Le docteur, c'est le ministère don qui a été donné par Dieu pour rendre compréhensibles les choses difficiles à saisir, qui va donner une application à la doctrine, à la théologie, et qui va finalement, eh bien là, enseigner l'Église pour qu'elle ne soit pas emportée à tout vent de doctrine. C'est un docteur. Et puis ensuite, ceux qui font le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, c'est le don spirituel de secourir, etc., etc. Alors, il y a dans Éphésiens également, parce que bon, je pense que nous avons une liste aussi très qui évoque bien la chose dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, et là, c'est beaucoup plus concis, au verset 11, et c'est là où nous voyons le ministère don. Dieu a donné, verset 11, Dieu a donné les uns pour apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. L'évangéliste, c'est celui qui a vraiment à cœur le salut des âmes et qui a un don finalement de communication facile, simple. Il vient vers vous, il vous parle de Jésus et il y est accompagné finalement de signes et de miracles et les gens eh bien se convertissent. C'est l'évangéliste. Les autres comme pasteurs, bon, vous voyez à peu près ce que c'est, un berger. Les autres comme docteurs, écoutez bien, pour le perfectionnement des chrétiens en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Dieu a donné. Il y a une différence, c'est pour ça qu'on les appelle les ministères dons. C'est Dieu qui a donné, c'est pas les hommes qui ont choisi d'être apôtres, pasteurs ou etc., etc. Alors que finalement, les diacres, c'est quelque chose qui monte de leur cœur pour répondre à l'appel de Dieu. Mais en quelque sorte, ce sont des ministères qui sont des ministères qui, enfin, des services, on pourrait dire, où ils se sont inspirés comme les anciens et comme les évêques. Oui. Alors un évêque, hein, c'est pas il n'y a aucune crainte. Hein. C'est tout simplement un berger qui travaille avec un pasteur, qui travaille avec un pasteur comme l'ancien, et qui a pour vocation de veiller sur, surveillant. Voilà. Alors nous avons justement le ministère don et les ministères d'inspiration, c'est-à-dire ceux qui aspirent, vous qui aspirez à une tâche dans l'Église. Une tâche qui peut être très variée, hein, qui peut être celle de diacre, tout simplement, pour les choses auxiliaires et les choses matérielles, mais qui peut être aussi, eh bien là, comme Philippe, comme Étienne, qui, de diacre qu'ils étaient, sont devenus des évangélistes aussi. Voilà. Alors, le diaconat, je le rappelle, homme et femme, c'est une belle vocation, même les dames, auprès des enfants, des jeunes filles. Diaconia veut dire service en grec. Diakoneo veut dire servir. Donc, la pensée, elle est bien fixée, c'est le service. C'est une charge d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans une église et dans les églises moyennes ou petites comme ici, il y a le pasteur en titre, c'est un ministère dont le pasteur. Moi, j'ai pas choisi d'être pasteur, hein, franchement. Ah non, et quand le Seigneur m'a appelé, j'ai dit, moi, j'y vais plus. Hein. Ah oui, c'est ça. Hein. Je voulais y aller quand j'avais 20 ans, mais quand il m'a appelé après, quand il m'a confirmé, j'ai dit, Seigneur, moi, j'y vais plus. C'était exactement le contraire de mon épouse, qui au départ, elle ne voulait pas, et puis à la fin, elle m'a dit, tu y vas. Allez comprendre les dames. Oh, mais c'est terrible, j'ai rien compris, hein, mais enfin, bon, peu importe. Ça, ce sont des ministères dons. Après, ce sont des ministères d'inspiration. Si quelqu'un aspire à être ancien ou évêque, alors à ce moment-là, bien, mais tout à fait. C'est quelque chose qui est tout à fait... formidable. Donc c'est un ministère d'accompagnement. Dans le texte que nous avons lu, c'est un ministère de distribution de la nourriture, du social, si vous voulez aller par là. Il y en a deux qui vont se distinguer, il y a Étienne qui va être choisi, et puis Philippe également. Et on sait très bien la fin d'Étienne et le ministère d'évangéliste de Philippe, hein. Quand on le voit, par exemple, quand il va à Samarie, extraordinaire, hein. Mais vous remarquerez qu'il est soumis aux apôtres parce qu'il va demander à Pierre et à Jean de venir. Donc il y a une soumission à ce moment-là. C'est pas de l'autoritarisme comme on le voit. C'est une véritable autorité déléguée. C'est ça le problème. C'est que trop souvent, et moi je suis profondément attristé, je peux le dire à mon âge maintenant, hein, mais je suis profondément attristé que quelquefois dans certaines communautés, les pasteurs se sont montrés, non pas avec l'autorité de Dieu, mais ont fait de l'autoritarisme. Moi, monsieur le pasteur. Quelle belle jambe. On n'est pas plus que les autres. D'ailleurs, on rappellera à Pierre, ancien parmi les anciens. Bon, ça va, Pierre, on en a fait un pape. Enfin, j'espère que ça va pas m'arriver. Bon. Diacre. Un assistant dans diverses tâches matérielles. Le diaconat est utile pour l'Église parce qu'il a permis, dans le cas que nous avons lu tout à l'heure dans Actes chapitre 6, le dégagement des fonctions apostoliques. Écoutez, au verset 2, il est dit à un moment donné, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est normal. Parce que l'objectif principal d'un ministère don, c'est la parole de Dieu et la prière. Et c'est à ce quoi nous nous appliquons, avec tout le reste. Parce que quelquefois, on a mis la main à la pâte, hein, parce qu'il fallait que ça soit fait. Parce qu'il fallait que les choses se réalisent. Et vous savez, le meilleur moyen pour entraîner les autres, c'est d'être le premier à montrer l'exemple. Hein. Le nettoyage, les travaux, toutes sortes de choses. Hein. Alors Dieu nous a fait grâce pour Redon, parce que finalement, Dieu nous a donné les moyens, même financiers et économiques, pour que ça soit fait par des entreprises. Et moi, j'ai voulu que ça soit comme ça, pour la bonne raison que mes frères, en considération de, même si vous avez des métiers qui pouvaient correspondre, que vous puissiez finalement, eh bien, là, ne pas vous tuer au travail, hein, on avait les moyens de le faire, hein, et que vous puissiez finalement, eh bien, parce que souvent on a vu, hein, quand on a investi l'Église dans des constructions, ça quelquefois, ça finit par une division. Les gens sont trop fatigués, ils sont épuisés, et ça finit mal. Et ça, c'était la dernière chose à faire. Donc, il est convenable que nous ne laissions pas la parole de Dieu, mais que, voilà, pour aller servir aux tables. Et ils diront un peu plus tard, mais nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. Vous savez, prêcher, c'est pas facile. Bon, quand on a de l'expérience, un petit peu, c'est plus simple. Parce qu'il y a une intégration, finalement, de la parole de Dieu, la connaissance, et puis la conduite de l'esprit. Mais, au départ, un jeune qui commence, c'est pas simple. Faut qu'il apprenne tout, hein. Et faut pas qu'il apprenne d'une manière intellectuelle et cérébrale. Faut qu'il apprenne surtout à s'abandonner entre les mains de Dieu pour avoir l'inspiration d'une parole qui sera une parole de connaissance, une parole de sagesse, discernement des esprits, et puis tout le reste. Parce que ça se fait pas comme ça, hein. C'est pas une petite affaire. Ça, on le sait. Et ça procède d'un appel divin qui reste prioritaire pour les ministères dont Paul le dira, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et c'est vrai que, en ce qui concerne les ministères dont on n'a pas une marge de manœuvre très large. Hein. C'est Dieu qui t'a choisi, c'est tout. Voilà, tout simplement. Mais c'est une belle chose d'être choisi par le Seigneur pour ce genre de ministère dont parce que, quelque part, quand Dieu envoie, il donne le matériel avec, c'est-à-dire les instruments, les outils pour faire le travail. Et c'est là où souvent on se sent complètement démuni et incapable. Combien de fois nous sommes tenus devant les Seigneurs en disant, Seigneur, c'est pas possible, je ne peux pas. Chez Dieu, le mot je ne peux pas, ça n'existe pas parce que lui, il peut tout. Et dans la mesure où je crois en lui, qu'il peut tout. Et là, tout peut se faire. Naturellement. Donc, c'est la première proposition. Dans l'Église, il y avait les ministères dons, 5. Il y avait après les anciens et les diacres, vous les connaissez, ils sont au milieu de nous, hein, les anciens et les évêques. Hein, alors, si ce soir ou après le culte, vous allez saluer l'un ou l'autre, je ne dis pas les noms, hein, parce que je ne voudrais pas faire de favoritisme. Bonjour monsieur l'évêque, ils vont être très contents. Hein. Voilà. Donc ça, ce sont ministères dons, ministère d'inspiration, et puis après les ministères matériels, enfin le service matériel, etc., etc. Il y a une qualification qui est requise, autant pour les anciens, autant pour les évêques, et autant pour les diacres, et qui plus est pour les ministères dons, c'est ce que nous allons voir dans 1 Timothée chapitre 3. Alors, chapitre 3, on va le lire, je vais prendre le temps de le lire, comme ça, puisqu'on parle des trois catégories, on va pouvoir... Chapitre 3, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire que c'est pas un ministère don ça, hein, c'est aspirer. Oui, je crois que certains peuvent se dire, des frères et des sœurs, ou des frères parce que ce sont des anciens, je crois que le Seigneur me met à cœur de faire telle ou telle chose. Voilà. Il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque ou l'ancien soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, c'est le minimum. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ce qui serait quand même assez étonnant, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. S'il veut diriger l'église de Dieu, ça se comprend, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. C'est pas le bagne hein, dans la famille d'un pasteur ou de la famille d'un ancien. Hein. Et là, on a perdu beaucoup d'enfants, soit de pasteurs ou d'anciens, parce que les choses, on a trop exigé de nos enfants. Mais pas au regard peut-être du père, mais au regard de l'église. Ah, c'est l'enfant, c'est le fils du pasteur ou c'est le fils de l'ancien, faut qu'il soit, voilà, faudrait qu'il soit parfait. Mais il n'est pas converti. Il y a eu des erreurs monumentales de fait. Ah, monumentales. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? C'est logique. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Attention. Si quelqu'un vient nous voir en disant, moi j'ai un ministère et ça fait 15 jours que je suis converti, mon petit garçon, tu commences à faire l'école biblique et tu commences à faire ta théologie, tu vas apprendre des choses. Et tu commences à servir humblement dans l'église, et pas d'être montré tout de suite sur l'estrade. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres maintenant, puisqu'on en parlait. Voilà. Les diacres doivent être aussi honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, hein, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être aussi maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent d'un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Voilà les conditions morales dont nous sommes tous d'accord. Mais dans les faits, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Dans notre texte, il est question de la consécration, du dévouement et du don de soi, au verset 3. C'est pourquoi choisissez parmi vous cet homme que l'on a un bon témoignage, qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Cherchons à être remplis d'Esprit Saint et de sagesse, mes frères et sœurs. C'est important. Et de ne pas nous croire plus spirituels que les autres. Quel que soit notre âge et quelle que soit notre fonction. Non. On n'a pas à impressionner notre frère et notre sœur. On n'a pas à nous mettre au-dessus des autres. Ensuite, le verset 5, puisque nous l'avons vu, puisque ça a été voté, cette proposition plut à toute l'assemblée, alors ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, et puis il y en a encore 5 autres. Hein. Donc il y a un accord unanime. Nous aurons bientôt encore l'occasion de voter pour de nouveaux anciens dans l'Église, parce qu'il y en a qui sont partis. On ne le fait pas pour un diacre, c'est le conseil d'administration qui, à ce moment-là, reconnaît le diacre. Mais en tous les cas, un ancien, oui. Et un nouveau pasteur, président, oui. Donc, un accord unanime, et je dis que c'est une intelligence de l'esprit quand on reconnaît quelqu'un qui est rempli d'esprit saint et plein de foi. Faut le voir, ça. C'est la modestie et l'humilité. Hein. Et puis, au verset 6, il y a ce choix démocratique, puisqu'ils ont élu naturellement, hein. Ils persévèrent, ils présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. C'est pas les apôtres qui ont choisi les diacres, c'est l'Église qui a choisi à ce moment-là. Et les anciens, enfin quand il s'agit d'anciens, parce qu'il peut y avoir les deux fonctions en même temps simultanées. Hein. Les premiers ont été sélectionnés pour la bonne organisation de l'Église. Et il y a eu à ce moment-là une reconnaissance, il y a eu une recommandation et imposition des mains pour qu'ils puissent maintenant faire leur travail. Prier, alors ça s'est fait dans ce cadre-là, mais prier mes frères et sœurs, pour que véritablement ceux qui servent dans l'Église, d'une manière ou d'une autre, à quelque niveau que ce soit, priez pour eux. Parce que ils peuvent être disputés, ils traversent des moments difficiles, ils peuvent connaître la maladie comme tout un chacun, naturellement, mais nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Parce qu'à partir du moment où nous servons, que nous servons de tout cœur, nous allons être sous le crible du diable. Vous avez remarqué, on l'a lu tout à l'heure, hein? Afin qu'il ne tombe pas dans les pièges du diable. Si vous faites rien, tranquille, vous tracassez pas. Mais si vous voulez faire quelque chose, à quelque niveau, à quelque dimension soit-elle, vous allez voir que il y a des choses qui se passent. Hein. Si le diable pouvait nous discréditer, s'il pouvait finalement nous faire chuter, mais il va pas s'en priver. Hein. Il ne va pas s'en priver. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais justement souligner. Après cette organisation, c'est pas une réorganisation, les ministères donc. Les ministères donc d'anciens et ensuite de diacres. Écoutez bien, et ça c'est encourageant pour l'avenir, hein, parce que moi je pense que c'est ce qu'il faut avoir en vue. Hein. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. C'est elle. Ah oui. Les ministères dont ils ont eu le temps de prier, ils ont eu le temps de préparer la parole au lieu de servir des repas à table. Hein. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a un pasteur qui se disperse dans toutes sortes de choses. Je me dis, il passe à côté de sa mission. Le pasteur c'est un berger, il doit être là et pas courir de droite et de gauche. Excusez-moi. Bon, quelquefois on peut avoir des invitations et ceci, cela. Hein, et puis il peut y avoir on peut être pris dans des commissions, toutes sortes de choses. Mais quand il est jamais dans l'église, excusez-moi, mes frères et sœurs, mais le berger est absent. Hein. Et vous savez ce qui se passe dans une bergerie quand le berger est absent? Eh bien, les loups viennent de tous les côtés. Hein. Et ça, c'est important. Il faut le voir aussi, ça. Hein. Ça, c'est important. Alors, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et ce que vous attendez, ce que nous attendons, et pourquoi nous bénissons le Seigneur, et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et il y avait même et une grande foule de sacrificateurs, c'est-à-dire de prêtres, de l'institution israélite, se convertissaient à la foi en Jésus. Mes frères et sœurs, moi je pense que là, à travers ce verset, on se dit, mais Seigneur, donne-nous de vivre tout à nouveau, finalement, cette expérience, sans faire de sélection. Vous rendez compte qu'il y ait là des prêtres qui viennent et qui se convertissent? Moi, j'en connais. Et des bonnes sœurs. J'en connais. Oui. Et vraiment, authentiquement. Ils attendaient que le fruit soit mûr pour finalement découvrir Jésus-Christ. Et pourtant, depuis toute leur vie, ils avaient entendu parler de Jésus-Christ. Et ils l'avaient prêché aux autres. Mais pas un Christ selon la chair, un Christ selon l'esprit. C'est-à-dire la conversion. Ça, c'est une autre dimension, naturellement. Et il y a quelque chose dont il faut mettre en, qui n'est pas dans notre texte, parce que le texte nous montre que le bon côté. Hein, il nous est dit qu'il y avait des conversions, le nombre des disciples augmenté et tout ça. Et moi, j'y ajoute quelque chose parce que c'est tout le reste, finalement, qui, ce que nous vivons dans nos églises. Il y a un écueil. L'écueil, c'est fuir les réalités et la concurrence. On a parlé des ministères, dont apôtres, hein, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, etc., etc., ministères. Donc, je voudrais que ça rentre, ça, parce que c'est important. Hein. Tout le monde n'est pas appelé à ce, et ça n'a pas été donné à tout le monde. Maintenant, après, il peut y avoir des rivalités entre les anciens. Je parle pas d'évêques, c'est le même mot, hein, de toute façon. Hein. Mais il peut y avoir des rivalités. On en a connu dans les églises. On en a connu et c'est malheureux. Parce qu'il y en a un qui fait chanter, l'autre qui prêche, et puis l'autre qui fait ceci et cela en disant « ben pousse-toi un peu que je m'y mette hein. ». Moi je dis c'est déplorable. Déplorable dans l'église de Jésus-Christ. Oh, déplorable? Oui. Mais vous savez, ça s'est fait que dans le groupe de Jésus. Hein. Un jour on est venu bousculer un peu Jésus en disant, c'était Jacques et Jean, Et dis donc, dis-nous lequel sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Ça vous rappelle rien, ça? Ah, dis donc, ils ont bien fait de poser la question, hein. Bon, on va voir ça, justement. Matthieu, chapitre 20. Mais on va prendre notre temps de le lire quand même, parce que c'est important, hein. Alors, ça a été suscité par l'orgueil et la fierté d'une maman. Alors, je dis ça parce que, mes frères et mes sœurs, c'est quelquefois pas vous-même, mais ça peut être les parents. Ça peut être une maman qui veut marier sa fille avec un pasteur. Ouah ! Ça peut être un papa qui, quelque part, dit, bien voilà, mon fils, voilà, moi j'aimerais bien que tu aies une place dans l'église, etc., etc. Écoutez, c'est une affaire personnelle, parce que le mariage, ça n'a rien à voir avec le ministère, parce que si vous voulez que vos enfants soient heureux, qu'ils se marient dans l'amour, et qu'ils se marient dans le Seigneur, et pas forcément dans l'église. Ouah, vous allez me tuer! Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce que je suis en train de dire, il y a des sous-entendus derrière, hein. Pas se faire d'illusions, hein. Et des sous-entendus dont nous avions à traiter quelquefois les tristesses et les peines et les chagrins. Parce que c'est le Seigneur qui appelle, hein, c'est pas le pasteur et c'est pas papa et maman. Alors, Madame Zébédée. La mère des fils de Zébédée. Elle s'appelait Madame Zébédée. D'accord? Bon. S'approcha de Jésus avec ses fils, bien gentiment. C'est moi qui l'ajoute. Hein, et se prosterna pour lui faire une demande, une courbette. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, ils sont des fils chéris, mignons, tu peux pas savoir, que voici soient assis dans ton royaume, l'un à droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Bing! Là, c'est sévère, hein. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons. Et voilà, c'est toujours le même problème que quand on ambitionne et qu'on a des ambitions qui sont démesurées et qui ne viennent pas de l'esprit, alors à ce moment-là, on croit qu'on est tout capable de tout. Nous le pouvons. Jésus parlait de sa mort, hein. Bon. Et il lui répondit, il est vrai que vous pouvez boire ma coupe, la souffrance, mais pour ce qui est d'être assis à droite et à gauche dans le royaume, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon père l'a réservé et ceux qu'il a appelés. Les 10 ayant entendu cela furent indignés, vous comprenez. Déjà, ils ont dit, et pourquoi eux et pas nous? Jésus les appela et leur dit, vous savez que les chefs des nations, c'est-à-dire les présidents et les rois, les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de beaucoup. Mes frères, tous les services dans l'église, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et la gloire de Dieu. En ce qui concerne Jean et Jacques, je vous dirai quand je serai là-haut, je vous enverrai un SMS pour vous dire s'ils sont à droite ou à gauche. Et pour l'instant, je ne peux pas savoir. Bon. Les rivalités et la concurrence dans les églises, c'est un poison. Je peux vous dire que ça donne du souci à un pasteur. Et il y en a qui sont partis. Il y en a même qui ont quitté le ministère en disant « Ben oui, mais bon ». C'est pas au pasteur de régler le problème, c'est au Seigneur, si on est patient. Il faut être patient. Très patient. Il faut être très patient lorsque nous avons des problèmes, nous-mêmes, entre nous, entre frères et sœurs. Il faut être patient si nous avons des problèmes de couple. Il faut être patient, mes frères. C'est pas à coup de ceci et cela que ça va se régler. Quand on est spirituel, on porte ça devant le Seigneur et c'est lui qui va régler le problème. Et avec beaucoup d'étonnement, parce qu'on n'est pas là pour prier pour que l'autre meure, et qu'on en soit débarrassé. Oh, quelquefois il y a des haines, hein. Ouais, on va pas prier pour qu'il meure. Mais véritablement que Dieu agisse dans les cœurs et ramène l'amour fraternel, l'amour conjugal, l'amour entre les pères, les parents et les enfants. C'est ça le grand... Parce que c'est trop facile de dire, voilà, il a disparu, c'est très bien, je suis tranquille. Non! Ce qu'il y a, c'est toujours en vue de celui que l'on n'aime pas, mais qui se convertisse ou qui change pour que véritablement, eh bien, il y ait quelque chose de positif. Ouais. Que chacun se considère en dessus de l'autre, en dessous. Je suis au-dessus de vous là actuellement, hein. Oui, mais je suis comme si j'étais au milieu de vous, hein. Voilà. Mais toujours est-il que c'est ce que nous dit Philippiens parce que là aussi c'est intéressant, c'est Paul qui le dit tout cela, et il en parle d'une manière très claire. Philippiens chapitre 2, il est dit « Rendez ma joie parfaite », parce que lui il a eu des soucis avec les églises, je peux vous le dire, d'ailleurs il le dit. Alors « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. » Ouais, au-dessus de vous. Merci Seigneur. Celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Et c'est comme ça qu'on est grand. Je termine. Il y a un principe essentiel. C'est la fidélité et la probité. Probité dans les actions, mais probité aussi dans notre cœur. Oui. Seigneur nous a fait la grâce d'être sauvés. C'est déjà quelque chose. On est compte. Et il nous fait la grâce tous, si nous voulons participer, eh bien de le servir. C'est ainsi que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres, ce qui n'est pas malheureusement toujours le cas. Et c'est bien le problème. À ce moment-là, moi je me mets en porte-à-faux, finalement, du Seigneur, parce que je ne suis pas ce que je devrais être. Tout simplement. Mes illusions, mes ambitions, tout ça, eh bien, ça détruit l'essentiel. Puis moi, je voudrais simplement, avant de terminer, m'adresser aux jeunes. Il y en a quelques-uns? Ouais. Bon, mais je me mets dedans, ça va vous, c'est pas tout seul. Enfin, au moins, s'il y en a un, ça sera moi. Mais toujours est-il. Mais les jeunes, j'ai un souci. J'ai un souci parce que je voudrais que l'Église continue et qu'elle continue à croître, qu'elle se multiplie et qu'elle fasse véritablement une œuvre formidable après nous. Quand je dis nous, c'est au pluriel, c'est tous les anciens qui ont servi, qui ont été de vaillants héros. Vous savez, si l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est pas une question de quantité, mes frères et sœurs. C'est une question de qualité. Et je voudrais dire que quand on est arrivé ici, il y avait plus de monde. Mais il y en a beaucoup qui sont partis. Je vais vous dire pourquoi. Je peux me permettre de le dire. C'est parce qu'ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Des gens qui n'étaient pas convertis. C'est sérieux, ce que je dis. Vous allez me dire, oui, on peut toujours faire profession de foi. On peut toujours dire, on peut toujours être baptisé. Mais ce qui est important, c'est d'être né de nouveau. Et quand on fait des histoires les uns et les autres, quand on raconte des bobards, quand on essaie de nuire à quelques-uns ou à quelqu'un, moi je dis, c'est que il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. On a la foi, mais on n'est pas né de nouveau, on n'est pas régénéré. Parce qu'il y a eu beaucoup de mal de faire. Et l'Église, quand je suis arrivé, il y a 14 ans maintenant, il y avait du monde. Ouais. Alors, on va pas pleurer. On va pas pleurer, mes frères et sœurs. Moi, je préfère prêcher devant 10 personnes qu'une centaine, et sur la centaine, vous en avez une vingtaine qui fiche le bazar. Moi, le Seigneur m'a pas appelé à gérer la multitude et tout ça. Je parle franchement aujourd'hui. J'ai pas peur de parler. Je suis un peu comme monsieur le président de la République, je dis, il y a la réforme et tout ça, vous allez voir. Ça vous fait sourire, Mais moi, je vais être de tout mon cœur pour le Seigneur, c'est tout. Parce que si c'est pour faire du nombre, je sais, je me suis fait reprendre il y a quelque temps par un pasteur en disant, mais Alain, tu déranges parce que faut parler de quantité, etc. Ah, je lui dis non. C'est pas la quantité qui est importante. Le Seigneur nous a pas demandé de compter nos brebis, il nous a demandé tout simplement de paître nos brebis. Et compter et paître, c'est deux choses différentes. Et même si on n'a que 10, mais des bons, moi, je préfère comme ça. Comprenez? Eh oui. Et ça, c'est important. Et moi, je voudrais dire aux jeunes, parce que j'oublie pas ma pensée, c'est que nous vieillissons, comme tout le monde. Et je voudrais tellement y prier, mes frères, qu'il y ait des jeunes qui se lèvent dans l'Église. Et qui aient à cœur. Qui véritablement, ça les brûle à l'intérieur. Moi, ça m'a brûlé. Et je suis pas seul. Et que ça nous brûle d'amour. Pour le salut des âmes, moi je suis plus pasteur qu'évangéliste, mais au moins pour garder l'Église et puis qu'elle grandisse. Et vous savez, une Église qui est dans l'unité, dans la paix, elle grandira toujours. Une église qui est dans la division avec des gens qui font n'importe quoi et qui sont là en train de jouer les Casanova ou je ne sais quel autre personnage délirant. Moi, ça, c'est pas ça l'église. Non, l'authenticité. Et des gens bien convertis. Et quand on est bien converti, on critique pas. Si on a quelque chose à dire, on va voir les intéressés, mais on le dit pas à tous ceux autour pour que finalement, eh bien, ça infecte l'église. Vous savez, ça rentre par l'oreille. Ça vient de la bouche et ça rentre dans les oreilles. Et quand on fait ça, eh bien, on souille l'autre. On souille l'autre. Parce qu'avec des choses négatives et des choses qui sont pas positives, eh bien, c'est l'autre qui va les croire. Et à ce moment-là, il va être infecté. Donc, je suis non seulement complice, mais je suis auteur. Peut-être d'une chute. Ouais. À quelque niveau que ce soit. Ce n'est pas la recherche ni du pouvoir, ni de la popularité, ni du titre, de la fonction, ou avec des considérations humaines, mais c'est l'association entre nous, c'est la collaboration, c'est la mise en commun d'un état d'esprit d'unité et de foi. Ils étaient remplis de l'esprit et de foi. On l'a vu deux fois dans le texte. Et c'est ça ce qui est important. C'est ça, hein. Homme rempli de foi, d'esprit saint et de sagesse. Cette intégrité, nous avons besoin de l'avoir et que ça continue. Et priez, mes frères et sœurs, pour que il puisse y avoir des anciens qui se lèvent. Et on peut être ancien, même avoir 20 ans ou 30 ans, hein. C'est pas une question d'âge. Mais c'est dans les qualifications et les qualités que nous avons définies tout à l'heure. Nous avons besoin de diacres et de diaconesses dans cette église. Parce que jusqu'ici, je m'aperçois encore que tout le travail, même matériel et ce que l'on pourrait dire d'accompagnement, c'est encore nos personnes âgées qui le font, ou certains qui arrivent à un certain âge. Il faut que nos jeunes se mobilisent. Et la récompense, elle sera, comme Paul le dit, parce que lui, il a mouillé sa chemise, hein, Paul. Hein. Écoutez bien. Ainsi, mes frères bien-aimés, je finis. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et cette perle que nous avons dans l'évangile de Matthieu, où il est dit ceci, « Viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants et on va continuer donc aller un petit peu plus loin et terminer le culte. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Merci parce que tu as levé l'église à la Pentecôte et tu l'as remplie du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, le Consolateur, celui qui nous rappelle les paroles de Jésus, celui qui nous conduit, Seigneur, celui qui nous inspire, celui qui nous donne les fruits, celui qui nous donne les dons. Nous te bénissons pour cela. Merci pour les ministères dons. Merci pour les ministères d'anciens. Merci pour les services des diacres et des diaconesses. Nous voulons croire, Père éternel, que l'Église, c'est pas l'affaire du pasteur tout seul. Loin de là. Mais c'est toute l'Église. Sans exception. Et que ça se manifeste par des actes matériels ou économiques ou à travers la gentillesse, la bienveillance, des paroles, des prières, toutes sortes de choses. Tout cela, Seigneur, c'est l'Église. Et nous ne voulons pas venir en consommateurs. Et en pensant, Seigneur, que nous nous assoyons, nous venons faire notre devoir du dimanche matin ou participer, Seigneur, à la vie de prière où nous voyons le nombre décliner de plus en plus. Donc, la prière est malade. Enfin, l'intérêt de la prière. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus ou l'évangélisation, Seigneur, moi, en tous les cas, je retiens une chose. Moi, je te bénis. Et je bénis mes frères et sœurs qui ont été fidèles pendant toutes ces années. Je te rends grâce et je te remercie de me les avoir donnés à mes côtés. Je te rends grâce et je te remercie, Seigneur, de leur donner un bon état d'esprit. Non pas, Père éternel, pour être vu des hommes, mais pour être à la gloire de Jésus-Christ, leur sauveur, comme le mien. Nous te bénissons et nous te remercions. Tu bénis ta parole ce matin. Ah, il y a quelquefois des choses rugueuses, mais des choses nécessaires. Parce que nous savons, Seigneur, que nous vivons dans un monde de désinvolture. Un monde mou, un monde où les choses, Père éternel, eh bien, vont en déliquescence de plus en plus. Mais Seigneur, nous voulons croire, Père éternel, que toi tu veux visiter ton peuple et donner encore un nouveau souffle, un souffle nouveau du Saint-Esprit pour les temps à venir. Merci mon Dieu, merci Jésus. Amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.